RTL Info.
Le journal David Sanchez.
Bonsoir à tous. 100 francs et 2 jours de vacances en plus en moyenne. C'est la prime Covid touchée par les employés du réseau hospitalier neuchâtelois. Les syndicats revendiquent un mois de salaire ou de vacances supplémentaires. 20 jours pour renoncer à Vivalor, une électricité plus verte mais plus chère. Certains clients de Viteos en ont fait l'expérience durant les fêtes de fin d'année. La FRC dénonce un délai trop court et une période inappropriée. Les élus subissent trop souvent des pressions et des attaques haineuses sur les réseaux sociaux. À Berne, la PLR Jacqueline de Quattro a déposé une motion pour que ces messages soient poursuivis d'office. Enfin météo, le temps devrait rester sec ce soir et cette nuit. Le retour des précipitations n'est prévu que dimanche. Attention, si vous êtes à la tête d'une entreprise qui doit fermer lundi en raison des nouvelles mesures édictées par le Conseil fédéral. Le service cantonal de l'emploi rappelle que le délai de préavis est de 3 jours en matière de réduction de l'horaire de travail. Pour pouvoir bénéficier des indemnités RHT dès lundi 18 janvier, les demandes doivent être déposées jusqu'à ce soir à minuit à l'adresse orct.surveillance@n.ch ou via le site www.travail.suisse ou par courrier postal. Les entreprises déjà au bénéfice d'une décision positive ne doivent pas déposer de nouvelles demandes. Ces informations ainsi que les adresses sont à retrouver sur rtn.ch. Une prime Covid pour remercier les employés de la santé. Le réseau hospitalier neuchâtelois leur a accordé en moyenne 2 jours de vacances supplémentaires et un avoir de 100 francs valable au sein de l'établissement hospitalier, à savoir au kiosque ou à la cafétéria. Sarah Massy.
Le personnel, qui en raison de ses horaires de travail n'y a pas accès, a reçu un bon à faire valoir dans des grandes enseignes du canton de Neuchâtel. Une gratification qui peut sembler dérisoire face au travail accompli par le personnel en raison de la pandémie. Gérard Brand, directeur des ressources humaines du RHNE.
La question de la valeur, je dirais, elle est toute relative. Si on commence à valoriser les jours de congé ou les jours de compensation, si on commence à valoriser l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre, on parle ici de millions. Bien entendu, ça peut paraître insuffisant aux yeux ou au regard de certains. Nous faisons aussi avec les moyens dont nous avons à disposition. Ensuite, il s'agit peut-être de voir d'où provient une éventuelle prime. Mais nous estimons en tous les cas actuellement avoir déjà proposé ou démontré un certain nombre de marques de reconnaissance. Bien sûr, au vu de la tournure de la pandémie, on peut toujours se poser la question de savoir si c'est suffisant ou pas. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir se projeter sur le long terme, donc aussi travailler sur l'environnement de travail, sur les conditions d'engagement, sur les aspects de maintien des postes de travail. Et je pense que c'est aussi un élément sur lequel on a apporté un soin particulier qui doit aussi pouvoir être reconnu.
Cette gratification de 100 francs et de 2 jours de vacances supplémentaires est insuffisante aux yeux des syndicats qui font d'autres revendications. Juan Barahona, secrétaire central au syndicat SINA.
Nous avons, nous, côté syndicat, fait la revendication d'un mois de salaire complémentaire ou un mois de vacances supplémentaires. Donc, à ce jour, les employeurs ne nous ont pas répondu. Donc ça reste toujours valable sur la table. Évidemment que cette revendication, elle s'adresse aussi aux autorités. Donc je rappelle que le Grand Conseil a accepté le principe d'une prime pour le personnel de santé. Le montant qui avait été évoqué à l'époque, c'était de l'ordre de 1 000 francs. Et le Conseil d'État avait été enjoint de prendre contact avec les partenaires sociaux pour justement aller plus loin. Pour l'instant, pas grand-chose ne bouge. Le sentiment qui prédomine au sein du personnel, c'est vraiment de l'incompréhension, du dépit, c'est vraiment presque un sentiment d'être pas pris au sérieux. Mais, de nouveau, c'est une décision de l'institution. Il n'a pas voulu discuter ça au niveau des partenaires sociaux, donc elle doit en assumer les conséquences et donner des explications.
Ces revendications ont un coût, comme l'explique Gérald Brand, directeur des ressources humaines du RHNE.
Un mois de salaire, c'est 8% de grandeur de salaire. La question de savoir à quel niveau cela devrait correspondre, ça semble toujours difficile à évaluer. Puis Je pense qu'il est certainement encore trop tôt aujourd'hui pour pouvoir se prononcer sur cet aspect-là.
Le RHNE est sans lien direct avec la prime Covid ni la pandémie, a décidé de revaloriser certaines formations. Un diplôme d'école supérieure correspond à une augmentation de salaire brut de 400 francs par mois à partir du 1er janvier de cette année.
Ces revalorisations ne figurent pas encore dans la CCT qui doit être rediscutée. La convention collective de travail se termine à la fin de l'année. Un avenir électrique plus vert, donc plus cher. Certains clients de Viteos ont reçu en décembre un courrier les prévenant qu'ils allaient être alimentés en courant Vivalor, de l'électricité provenant d'ouvrages hydrauliques suisses et des usines d'incinération de La Chaux-de-Fonds et de Colombier. La lettre prévenait également que leur facture mensuelle d'électricité allait, dès le 1er janvier, augmenter de 1,40 francs en moyenne. Les clients concernés ont eu 20 jours pour se désinscrire de Vivalor, un délai trop court pour la Fédération romande des consommateurs. Lauriane Altweg en est la responsable énergie et environnement.
Surtout en période de fête, les gens ont franchement autre chose à faire que de s'intéresser à leurs factures et de téléphoner à Viteos alors qu'ils sont en train de préparer les festivités, même si les festivités étaient un peu différentes cette année. Et puis, on peut constater quand même que déjà en 2015, quand Viteos avait fait la même démarche auprès de ses clients neuchâtelois, le délai était bien supérieur. Les clients avaient reçu le courrier fin novembre pour une résiliation possible jusqu'au 15 janvier. Et déjà là, on avait estimé, nous, la FRC, que ce délai était insuffisant et qu'il aurait fallu en plus communiquer de manière plus transparente. Et là, je m'explique, c'est qu'à notre sens, ce serait quand même beaucoup plus clair d'offrir aux clients la possibilité d'avoir un coupon réponse préaffranchi où il suffirait de mettre une croix, oui, non, je ne souhaite pas ce produit, et puis de le renvoyer tout simplement par la poste. Parce qu'en période de fête, devoir passer un téléphone ou aller sur Internet se renseigner, souvent, ça prend quand même plus de temps.
De son côté, Viteos se défend de vouloir forcer la main à ses clients en imposant des délais trop courts. Son directeur énergie et produits, Rémi Gianopagne.
Nous n'entendons pas du tout forcer la main des consommateurs. Nous leur proposons de partir sur une énergie verte qui correspond, je pense, à l'aspiration de la plupart des consommateurs aujourd'hui. Et nous leur proposons d'être d'office au bénéfice de ce produit et d'y participer. Après, libre à chacun de effectivement se désister s'il préfère avoir une alimentation d'un autre type.
20 jours pour renoncer, c'est court, c'est très court, voire trop court en période de fête, non ?
Oui, effectivement, le délai est court, mais comme par le passé, nous appliquons ce délai avec beaucoup de souplesse et nous acceptons des inscriptions. Au-delà de ce délai, le seul impératif étant d'avoir un positionnement avant le moment de facturer le produit ou pas, selon le choix du consommateur. Ceci dit, le courrier, c'est un courrier qui a été envoyé, comme chaque année, à tous les nouveaux arrivants dans la zone de desserte Viteos, donc toutes les personnes qui ont emménagé sur notre zone en 2020. Ça concerne uniquement quelques dizaines de personnes.
Rémi Diopiane répondait à Claire Viget. Il n'est donc pas trop tard pour renoncer. On notera encore que les revenus de la plus-value induite par Vivalor serviront à alimenter un fonds destiné à promouvoir l'efficacité énergétique au travers de projets de proximité. Un vent de renouveau devrait souffler sur le château de Baudry dès le printemps. Après avoir exploité l'hôtel des six communes durant plus de 20 ans, Marianne et Pierre-Alain Rohrer ont été retenus pour piloter l'exploitation du site dès le 1er avril. Ils ont convaincu l'association d'exploitation qu'ils étaient le binôme de la situation. Ils seront en charge de l'accueil, de la gestion de l'énothèque, de l'organisation des manifestations et des relations avec les vignerons. Entretien avec les Rohrer à retrouver sur rtn.ch. Les nouvelles restrictions sanitaires en France vont s'accompagner dès lundi d'un durcissement des contrôles aux frontières. Les voyageurs qui arrivent de pays hors Union européenne devront présenter un test négatif et s'isoler. Question qui revient fréquemment ces dernières heures, est-ce que cette mesure concerne aussi la Suisse ? Le doute et le flou planaient encore hier soir à l'annonce des nouvelles mesures par le Premier ministre français Jean Castex. Le préfet du Doubs en France voisine a éclairci la situation ce matin chez nos confrères de France Bleu Besançon. Cela ne changera rien pour les Suisses qui veulent se rendre en France, selon Joël Mathurin.
Non, parce que c'est hors espace européen, ça a été précisé effectivement hier soir. Donc la Suisse faisant partie de l'espace européen en tant que membre du périmètre Schengen, ces mesures ne s'appliquent pas à la Suisse. Néanmoins, il est quand même recommandé, hein, donc à l'entrée sur le territoire français, d'avoir un test PCR. Mais c'est une recommandation. Et d'ailleurs, nous allons proposer ce week-end, donc au titre préventif, sur certaines frontières franco-suisses dans le département du Doubs, des stands de dépistage pour ceux qui le souhaiteront. Mais donc, les frontaliers ne sont pas concernés. Et d'une façon générale, l'échange franco-suisse n'est pas concerné par cette mesure.
Joël Mathurin, le préfet du Doubs. Se faire tester pour pouvoir contrôler la situation épidémiologique, c'est le message du conseil exécutif bernois. Le gouvernement a décidé de lancer une campagne de tests sur les apprenants des métiers de la santé et du social. La première action a eu lieu à Saint-Imier. Les explications du président du conseil exécutif et directeur de la santé publique, Pierre-Alain Schneck.
Afin de protéger les personnes dans les établissements socio-sanitaires, les apprenants de ces institutions ont subi des tests antigéniques rapides la première semaine d'école après les vacances de Noël. Cette action s'est déroulée dans le Jura bernois et sera poursuivie dans les autres régions du canton lorsque l'enseignement reprendra en présentiel. Ces tests ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. Cette recommandation s'adressait aux personnes en formation dans les professions suivantes: assistants soins de santé communautaires, assistants socio-éducatifs, aides en soins et accompagnement. Ces formations sont dispensées pour la région francophone au CEF à Saint-Imier. Le Gurten Festival a reçu le mandat de ma direction d'organiser le déroulement de ces tests. Des équipes mobiles étaient donc au CEF dès le 11 janvier 2021 pour faire les tests. 184 apprenants, soit environ 63%, ont été testés avec des résultats très encourageants. Aucun cas positif n'a été décelé. Cette action sera répétée dès le 18 janvier et par la suite étendue à d'autres régions.
Le conseil exécutif a également effectué de nombreux tests à Wengen, principal cluster de la nouvelle souche britannique du virus dans le canton. Malgré un certain apaisement, la situation reste tendue. Sur les 567 tests rapides effectués les 13 et 14 janvier, 3 étaient positifs et les résultats de 47 tests sont encore en attente. La population est invitée à se faire tester et pour ce faire, en collaboration avec la commune, le canton ouvrira un centre de tests à Lauterbrunnen lundi prochain. Le gouvernement bernois a également annoncé avoir adopté l'adaptation de l'ordonnance cantonale sur les cas de rigueur selon les dernières annonces du Conseil fédéral. La Suisse dénombre aujourd'hui 2396 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. L'Office fédéral de la santé publique fait également état cet après-midi de 66 décès supplémentaires et de 139 hospitalisations en plus. Le taux de positivité s'élève à 9,55%. Quant à celui de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, il est de 0,84 au niveau national. Les parlementaires fédéraux devraient être mieux protégés contre les menaces en ligne. La conseillère nationale vaudoise Jacqueline De Quattro en est persuadée. L'élu libéral radical a déposé lors de la dernière session une motion pour lutter contre le hate speech. Elle souhaite ainsi que les tentatives d'intimidation ou les discours haineux soient poursuivis d'office, même s'ils interviennent en dehors des fonctions officielles des victimes. L'objectif est de mettre un frein à ce phénomène malheureusement très répandu. Jacqueline De Quattro.
Nous avons vu que plus de trois quarts des parlementaires, souvent des femmes mais pas seulement, se font attaquer régulièrement. Actuellement, si on veut se défendre, on doit déposer une plainte personnelle contre les auteurs. Souvent sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à les identifier, on est très seul. Et si ensuite la machine judiciaire se met en route, il y a une deuxième possibilité de faire pression sur nous, qui est celle de nous contraindre à retirer la plainte pour que les gens s'en sortent. Et le message que nous aimerions faire passer, c'est qu'on ne peut pas faire impunément pression sur les personnes qui représentent nos institutions, parce que sinon on met en danger les institutions elles-mêmes, leur neutralité, leur indépendance.
Pourtant, n'importe quel citoyen ou citoyenne peut être victime d'attaques et de menaces sur les réseaux sociaux. Pourquoi donc différencier les élus et membres des instances fédérales du reste de la population ? Jacqueline De Quattro.
Ce qui justifie ma motion, c'est que vous êtes plus exposé à partir du moment où vous endossez une fonction. Alors, bien sûr, en tant que femme ou d'homme public, on doit avoir les épaules larges, on doit accepter que les citoyens soient mécontents, fâchés, même parfois un peu excessifs dans leurs propos. Ça fait partie du métier. Mais il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas demander à un parlementaire de changer d'avis sous la contrainte ou à un juge fédéral de donner un avis favorable ou défavorable sur un dossier parce qu'on le menace. Après, la protection est doit se décliner à tous les niveaux. Je propose que nous commencions au niveau des institutions, parce que si celles-ci ne fonctionnent plus, notre démocratie est en jeu.
Rappelons que la fêtière Alliance F, qui réunit une centaine d'associations de femmes, a lancé un projet pour lutter à large échelle contre le hate speech. Il s'agit d'un algorithme qui devrait être à terme capable de détecter les contenus problématiques sur les réseaux sociaux. Enfin en sport, match au sommet en Ligue A féminine de volley-ball. Le NUC reçoit Esch-Pfeffingen à 20h à la Riveraine. Les volleyeuses neuchâteloises restent sur 6 victoires de rang. Elles occupent la deuxième place du classement avec 6 points de retard sur la formation baloise qui est leader. D'autre part, toujours en volley-ball, toutes les compétitions cantonales neuchâteloises de cette saison sont annulées en raison de la crise sanitaire. C'est le comité de Suisse Volley Région Neuchâtel qui l'a indiqué aujourd'hui dans un communiqué. Et on termine avec du football. La Swiss Football League a dévoilé cet après-midi les dates et horaires des 10 prochaines rencontres de Challenge League. On savait déjà que Neuchâtel Xamax FCS reprenait officiellement la compétition le 22 janvier contre Kriens. On sait aussi désormais que le deuxième tour du championnat débutera le vendredi 5 février. Les Rouges et Noirs accueilleront Kriens à la Maladière dès 20h.
Un coup d'œil à la météo avec des températures qui vont baisser, largement baisser la nuit prochaine. Moins 13 degrés attendus dans les montagnes neuchâteloises. Mais le temps devrait rester sec la nuit prochaine. Demain, du stratus sera présent en plaine jusque vers 1000 mètres d'altitude. Sinon, et après dissipation, le temps sera globalement ensoleillé sur la région. Jusqu'en fin de journée où les nuages feront leur retour. Il fera moins 1 degré demain au meilleur de la journée au pied du massif, moins 4 dans les montagnes neuchâteloises. Et puis dimanche, un temps à nouveau gris et nuageux avec là quelques précipitations sous forme de neige jusque vers 6 à 800 mètres d'altitude.